Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Nous voici donc pour une nouvelle émission présentation d'éclairage sur le monde avec Thierry de Montbrial. Éclairage que je propose que nous consacrions entièrement, parce qu'il me semble que l'événement en vaut la peine, à l'affaire libyenne. Parce que cela va nous permettre de reprendre cette affaire depuis son origine, d'en voir les développements, et ce qui va nous conduire d'ailleurs à examiner la situation, certes en Orient, dans les pays arabes, mais aussi la situation en Europe, nos relations avec les États-Unis, etc. Parce que tous ces événements jouent les uns avec les autres. Nous avons vu le 20-21 août et les jours qui ont suivi la prise de Tripoli par l'insurrection, qui avait pris pour origine la Cyrénaïque et Benghazi. Tout ceci, en fait, a commencé par une résolution aux Nations Unies votée dans la nuit du 17 mars, cette résolution 1973, la France et la Grande-Bretagne en sont les auteurs, mais il a fallu du temps pour la négocier parce que les Américains hésitaient, les Allemands aussi, et à la limite ont eu du mal à se convaincre de ne pas s'y opposer, et on a tout de même surmonté le côté négatif de l'attitude chinoise et russe. Alors, je voudrais que, Thierry, vous reveniez sur cette diplomatie-là, ce départ diplomatique, parce qu'ensuite, il va naturellement expliquer le déroulement de cette affaire.
Tout d'abord, je voudrais dire, parce qu'ensuite on introduira les nuances, mais je crois qu'on peut saluer l'audace, c'est pas, du président de la République. Je crois d'ailleurs que c'est l'une de ses qualités, c'est pas, une de ses grandes qualités qu'il a montrées dès ce jour de je ne sais plus quelle année, vous le direz sans doute, où quand il était maire de Neuilly, il y avait eu cette prise d'otage.
Human bomb.
Il avait montré, il a des qualités assez exceptionnelles de saisir les occasions et de prendre des risques. Donc, je crois qu'il est tout à fait légitime de lui rendre hommage. D'ailleurs, on pourrait dire aussi la même chose sur la Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, là, la situation est beaucoup plus complexe. Et c'est aussi ce que je voudrais dire en exergue, c'est que l'affaire est loin d'être terminée. Parce que ces jours-ci, depuis la prise de Tripoli, le renversement du régime, certes, mais enfin, indépendamment du fait que Kadhafi court toujours, la suite ne sera pas simple, sera pour le même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquée qu'en Côte d'Ivoire. Je pense que nous en parlerons. Tout ceci étant dit, puisque vous m'invitez à parler des origines de cette affaire au mois de mars, je pense qu'il faudra attendre sans doute des historiens, l'accès aux archives, etc., pour connaître tous les détails de ces petits mécanismes, le rôle des uns et des autres. Je pense évidemment à Bernard-Henri Lévy, mais il y en a certainement d'autres. Et il y a deux points d'ailleurs qui sont particulièrement intrigants, et je crois franchement qu'on ne sait pas tout aujourd'hui. L'un, c'est comment effectivement Sarkozy et Cameron en sont arrivés aussi rapidement à s'entendre sur cette affaire, alors que je sais, et vous savez sûrement qu'en Grande-Bretagne, il y avait énormément de gens influents qui étaient tout à fait contre cette opération. Et l'autre question également, où à mon avis on n'a pas tous les éléments aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis et entre Sarkozy et Obama, Hillary Clinton
et Alain Juppé.
Car il y a eu un renversement de situation. Il y a eu un renversement de situation et il est vrai que autour du 15 mars encore, quelques heures, j'ai presque envie de dire, avant cette résolution 1973, on avait plutôt l'impression que les États-Unis étaient contre et s'opposeraient à cette résolution. Donc, il y a eu des renversements de situation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Russie, la Chine, bien entendu, sans parler de l'Allemagne, étaient réservées ou hostiles. Et donc, tout cela a été emmanché dans des conditions, encore une fois, qui seront probablement éclaircies plus tard, mais qui étaient un peu branlantes. Et ce côté branlant a duré de longues semaines. Il y a eu l'engagement de l'OTAN, les conditions, les transferts de pouvoir, l'engagement concret, mesuré, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part des Américains. Et puis également, un autre point dont nous allons, je pense, aussi parler, qui est la portée exacte, n'est-ce pas, d'une résolution des Nations Unies. Et on voit bien que la politique internationale, c'est la politique tout court, c'est-à-dire qu'on ne reste jamais dans un cadre strictement juridique.
Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui est passionnant, d'ailleurs.
Évidemment.
C'est ce qui est passionnant, et de voir le déroulement de cette affaire. On peut le voir, en effet, sous de nombreux aspects. L'Amérique, finalement, l'Amérique d'Obama, s'associe au sommet de Paris du 19 mars, au moment du déclenchement des bombardements aériens. Elle va rester avec l'OTAN et ses actions offensives jusqu'au 1er avril, puis ensuite elle s'en détache, ne laissant aux mains de la coalition, si je puis dire, que ses services de renseignement et ses appareils de renseignement et de surveillance, et ensuite donc s'engagent les campagnes de bombardement. Ici, nous avons dans le cadre de l'OTAN deux situations qui peuvent être comparées, qui méritent des leçons. Naturellement, on est tenté de comparer avec une précédente campagne aérienne qui a été celle du Kosovo en 1999, qui avait démarré au mois de mars, qui s'est terminée en juin et qui a fini par faire céder Milosevic dans cette affaire. Avec, là, le leader américain et sa puissance de feu considérable. C'est une comparaison. Il y en a une autre. Il y en a une autre, c'est celle de l'Irak, où finalement cette opération en Libye est le contre-exemple de ce qui s'est passé en Irak. Et je voudrais donc que vous reveniez sur votre analyse de la stratégie qui a été conduite et de la manière dont les choses se sont passées. Et puis nous allons évidemment approfondir.
Tout d'abord, je pense que la première des deux comparaisons ne tient pas bien la route. Nous sommes dans des situations extrêmement différentes. Premier élément de différence, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, faisait partie du périmètre de ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, par conséquent de la sphère communiste, et par conséquent nous étions dans le cadre traditionnel de l'OTAN, même si la situation avait évidemment beaucoup évolué depuis la chute de l'Union soviétique. Enfin, c'est-à-dire juste tout ça, c'est une des conséquences de la chute de l'Union soviétique. Ce point-là est très important, aussi bien d'ailleurs concernant les missions de l'OTAN. Donc on n'était pas, je le répète, en dehors des missions traditionnelles et classiques de l'OTAN, mais très important aussi parce qu'on avait une connaissance des terrains et de la réalité, comme d'ailleurs de tous les pays du système de l'Europe de l'Est, qui était sans aucune commune mesure avec la situation en Libye. Et enfin, j'ajouterais que s'agissant du Kosovo, Kosovo est un territoire qui est tout de même très limité, une population extrêmement réduite, à peu près, si je ne me trompe, 10% de la population libyenne, oui. À peu près. Et donc, tout cela fait énormément de différence. Il y a encore une dernière différence qui me paraît flagrante, qui est sur le plan juridique, puisque je rappelle que les bombardements de l'OTAN ont été décidés hors Nations Unies. Et que donc, il y a eu un débat qui, d'ailleurs, est toujours sur la table parmi les experts, c'est la question de la légalité, n'est-ce pas, de l'intervention de la Yougoslavie. Vous me direz, ça fait une belle jambe par rapport à ce qui s'est produit par la suite. Mais c'est tout de même une distinction d'une grande importance. L'opération libyenne, elle serait plutôt à rapprocher de la seconde comparaison, c'est-à-dire l'opération irakienne, avec tout de même un certain nombre de différences. La première différence que je verrai, alors outre en dehors des aspects population, etc., des aspects, disons, grossièrement quantitatifs, c'est que personne n'a déclaré au départ qu'on intervenait en Libye parce que le colonel Kadhafi avait des armes de destruction massive et abritait Al-Qaïda. D'ailleurs, sur le plan Al-Qaïda, c'est le contraire, puisque Kadhafi n'a au contraire cessé de dénoncer Al-Qaïda. Et du reste, c'est un point sur lequel nous reviendrons.
Tout à fait.
On a tout lieu de penser qu'il y a des réseaux Al-Qaïda qui sont actuellement infiltrés, abrité, même au sein ou autour de la CNT. Donc, situation très différente. Ce qui a été invoqué, il y a eu une résolution des Nations Unies, et ce qui a été invoqué, c'est ce nouveau droit de protéger les populations, qui est dérivé du droit d'ingérence. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement une grande première. Alors, j'ajouterai toujours, pour souligner les différences au sein de l'analogie, puisque je dis l'analogie, en effet, est meilleure avec l'Irak qu'elle ne l'est avec le Kosovo. Mais enfin, je crois qu'on connaissait infiniment mieux le terrain en Irak qu'on ne le connaissait, et d'ailleurs, je dirais qu'on ne le connaît avec la Libye. car l'Irak, depuis au moins 13 ans, n'est-ce pas, était connu en long, en large et en travers, et sous toutes les coutures, et Saddam Hussein était quasiment ligoté. Il faut voir d'où d'ailleurs toute la controverse qu'il y a eu sur cette intervention. Alors que dans le cas de la Libye, ce qui est tout de même extrêmement frappant, c'est qu'on est allé là-dedans à l'aveuglette, très largement à l'aveuglette. D'où d'ailleurs l'importance, en effet, des services secrets, des services de renseignement, des forces spéciales. Et ceci nous ramène à un point auquel j'ai fait allusion il y a quelques minutes, qui est la légalité de tout ça. Parce que sans ces forces spéciales, sans l'intervention au sol de forces spéciales pour acquérir le minimum de renseignements, ne serait-ce d'ailleurs que pour identifier les cibles, pour guider, on n'aurait pas obtenu ce résultat. Or, il est tout à fait clair d'un point de vue strictement juridique que ces interventions n'étaient pas légales.
Bien sûr. Toutefois, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que dans cette coalition qui est intervenue dans le cadre de l'OTAN, il y a là deux questions. Dans le cadre de l'OTAN, donc nous allons revenir sur le fait que le retour de la France à l'intérieur du commandement intégré lui a probablement facilité les choses pour que ce fût dans le cadre de l'OTAN. La deuxième chose, c'est qu'il y avait parmi les coalisés trois pays arabes, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Ces trois pays arabes ont eux aussi des services de renseignement qui ont pu nous faciliter la tâche. Alors, je reviens sur ces deux aspects. Premier aspect, la France n'a-t-elle pas profité cette fois de son retour au sein de l'OTAN pour obtenir finalement cette opération et le cadre qui lui a été donné? Et la deuxième question portera sur, je dirais, l'accompagnement par les trois pays arabes.
Alors, sur le premier point, oui, sans doute, mais je pense que c'est à regarder de beaucoup plus près, précisément parce que l'opération n'a pas été engagée dans le cadre de l'OTAN. Donc,
c'est difficile. Qu'au lendemain.
Voilà, c'est difficile de faire de l'histoire rétrospective, oui. Mais je vous rappelle aussi que la France n'était pas si heureuse que ça, justement, que le commandement soit transféré à l'OTAN. Donc, vous voyez, je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Et là aussi, je pense que nous ne connaissons pas encore tous les détails de cette affaire. Il est tout à fait possible, au contraire, n'est-ce pas, que si la France n'était pas rentrée au sein de l'OTAN, les opérations auraient pu être engagées comme elles l'ont été, puisqu'encore une fois, ce n'était pas une opération de l'OTAN.
Comme elles l'ont été, oui, mais avec les Anglais, avec les Italiens, avec les Grecs, etc.
Oui.
Et même les Turcs.
Mais il y aurait peut-être eu un arrangement avec l'OTAN, comme il y en a eu dans le cas passé, parce que je vous rappelle que le fait que la France fût en dehors du commandement militaire intégré ne nous a pas empêchés de participer aux opérations antérieures. Donc, je crois qu'il ne faut pas magnifier, si vous voulez, cette influence, mais je dis ça sous réserve d'inventaire. Alors, sur la question des services de renseignement, de l'apport éventuel des Qataris, Jordaniens, Émiratis ou Émiratiens, on dit les deux,
oui.
J'ai personnellement quelques doutes. Je salue d'ailleurs aussi l'engagement du Qatar. Je trouve que le Qatar, d'une manière plus générale, ce tout petit pays mène assez remarquablement ses affaires et est en train de prendre d'avoir une influence qui est évidemment totalement disproportionnée avec son étendue géographique. Mais enfin, comprenez, le Qatar, c'est 800 000 habitants.
Ah oui, non.
Et les Émirats arabes unis sont très divers. Également, la population émiratie ou émiratienne réelle, pure, est extraordinairement faible. Et la Jordanie est un pays qui a plein de problèmes. Donc, j'ai beaucoup de doutes sur l'efficacité de services de renseignement de ces pays dans un pays aussi complexe que la Libye. J'ai énormément de doutes, à vrai dire. Et je crois qu'en réalité, aujourd'hui encore, nous sommes peu renseignés sur la réalité des forces à l'intérieur de la Libye. Et par exemple, nous allons probablement y venir à un moment ou à un autre dans la conversation, par exemple, nous ne savons même pas exactement qui sont les gens qui sont dans la CNT et autour.
Bien sûr.
Mais enfin, certaines personnes n'étaient pas totalement étrangères à l'histoire des infirmières bulgares, par exemple.
Naturellement, et notamment le ministre de la Justice, qui est aujourd'hui le premier ministre du CNT en question.
Voilà.
Au préalable, d'autres détails stratégiques, si l'on peut dire, pour la France. Il est quand même intéressant de noter que la France a su s'installer physiquement dans les Émirats, à Abu Dhabi, d'une manière assez spectaculaire, et en 30 ans, et que, naturellement, aujourd'hui, cette position lui donne des facilités d'accès et de soutien.
Oui, alors sur cette histoire, là aussi, c'est un point, à mon avis, c'est une question très différente. La question des accords de défense avec les Émirats arabes unis, et je pense qu'il faut la regarder dans un contexte stratégique beaucoup, beaucoup plus large.
Oui.
Et en pensant notamment à l'Iran, et je pense aussi à la perspective d'un Iran qui deviendrait nucléaire, n'est-ce pas ? Donc l'enjeu de l'accord militaire et de la base qui a été installée dans les Émirats est un enjeu qui va très, très, très au-delà de tout cela. Alors maintenant, cela étant dit, là où je vous rejoins, c'est que, en effet, la France a développé depuis un certain nombre d'années des relations, on va dire, privilégiées, des relations étroites avec les trois pays que vous avez cités, d'ailleurs, c'est-à-dire deux pays extrêmement riches, enfin deux États plus exactement extrêmement riches, le Qatar et les Émirats, et un État beaucoup plus faible du point de vue des moyens, mais qui a une importance et qui représente un enjeu significatif dans la région, qui est la Jordanie.
Alors, il est vrai que la situation, comme vous l'avez dit au début de cette conversation, est très loin d'être stabilisée en Libye, avec une différence par rapport à l'Irak notamment, c'est que nous n'avons pas les mêmes fractures religieuses. Donc, nous avons des fractures de population, de tribales, etc., mais nous n'avons pas les fractures religieuses qui y ont lieu, qui se sont fait jour en Irak. Cela dit, même si cette situation est fragile, elle va conduire à un moment donné à la constitution d'un nouveau gouvernement, d'autorités politiques qui vont s'installer à Tripoli. Bien. Effectivement, ce qui va être intéressant, c'est quelle est la composition, quelle est la nature des personnes et du gouvernement qui va s'installer là-bas. Il est clair que dans la région, notamment l'Algérie, redoute l'influence d'Al-Qaïda ou de ses filiales dans cette Libye qui est en train de se reconstituer, tout simplement parce que Kadhafi avait élevé un mur contre ce genre d'activité. Comment allons-nous gérer cela ?
Eh bien, c'est toute la question. C'est toute la question parce que même s'il n'y a pas de division religieuse au sens irakien du terme, il y a énormément de divisions. La Tripolitaine, la Cyrénaïque, chacun le sait, c'est en réalité deux pays différents. Il y a aussi le Fezzan, il y a des réalités tribales, je le répète, que nous connaissons extrêmement mal. Et tous les combattants, les insurgés qui ont participé, qui ont joué le rôle majeur dans ces opérations, nous ne savons encore une fois pas qui ils sont. Et ils vont réclamer leur part du gâteau, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ils vont demander à être partie prenante aux arrangements qui vont suivre. Et on n'a pas la moindre idée de la manière dont ça va se passer. Et je ne sais pas d'ailleurs qui a idée de la manière dont ça va se passer, puisque très peu les Italiens sont tout de même très largement déconnectés aussi depuis longtemps, les Anglais, etc. Donc je pense que nous sommes dans une situation qui est une situation où il y a énormément de points d'interrogation. Alors ça, c'est un aspect. Mais il y en a d'autres. Par exemple, je serais étonné que les Russes ou les Chinois facilitent énormément les choses dans cette région. Et je pense que leur intérêt, cyniquement, c'est plutôt qu'il y ait des difficultés. N'est-ce pas ? Même si nous concentrons sur la Libye, on ne peut pas ne pas dire un mot, par exemple, de la Syrie. Et
évidemment,
je me bornerai là à dire que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Iraniens, les Irakiens peut-être, etc., etc., personne, ils sont unis au moins sur un point, c'est qu'ils ne veulent pas que les Occidentaux viennent faire la loi dans cette partie du monde. Et c'est certainement l'atout le meilleur d'Assad. Donc, s'il y a une réussite, alors peut-être que je suis trop pessimiste dans ce que je suis en train de dire, j'espère que mon propos est trop pessimiste, mais enfin, je ne serais pas totalement étonné qu'un certain nombre des pays que je viens de mentionner ne facilitent pas les choses pour l'instauration rapide d'un État bien ordonné en Libye. Et naturellement, l'Algérie, que vous avez mentionnée, manifeste une extrême prudence, pour dire le moins.
Une extrême prudence, en effet. Bien qu'elle soit à Paris pour la conférence internationale de soutien à la Libye, parce que naturellement, il fallait bien qu'elle soit là. Mais cela dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de jeu qui ferait que, en effet, la Syrie étant interdite à toute action, intervention de quelque nature qu'elle soit, de la part des Occidentaux et de ceux qui ont agi en Libye, eh bien précisément, elle soit sous la protection de la Russie, de la Chine, de l'Iran, avec l'intermédiaire irakien que vous citez. Est-ce qu'il n'y a pas un échange entre les deux ? Parce qu'il est difficile aussi à ceux qui n'ont rien fait, russes, chinois et autres, de revendiquer quoi que ce soit en Libye aujourd'hui.
Oui, mais je crois qu'ils sont beaucoup plus intéressés par ce qui se passe dans l'autre région. Et là, je voudrais dire quelque chose que j'ai écrit moi-même depuis un certain nombre d'années, mais qui, d'un point de vue, je dois le dire, relativement isolé, et qui est le suivant. Je suis absolument convaincu que la Chine a une grande politique, très prudente, mais une grande politique vers le Moyen-Orient. N'oublions pas que la Chine a des besoins énergétiques, en ressources naturelles, etc., tout à fait considérables. On sait bien depuis longtemps qu'elle lorgne vers l'Afrique, où elle est très active, où elle était d'ailleurs très active déjà à l'époque de Mao. Et là, en y ajoutant, si vous voulez, les immenses ressources dont elle dispose, qui permettent, sous d'un claquement de doigts, de mettre autant de centaines de milliards de dollars ou d'euros qu'elle le souhaite, alors que nous, je fais une petite parenthèse, vous voyez combien on pleure pour économiser 10 ou 11 milliards d'euros de plus, parenthèse refermée. Et on a tendance à oublier qu'il n'y a pas si longtemps de cela encore, hein, à l'époque disons une cinquantaine d'années, quand en France, le grand historien de l'Asie s'appelait René Grousset, eh bien, l'Iran était classé comme un pays d'Asie. Il n'était pas classé comme un pays du Moyen-Orient. Nous avons pris l'habitude de penser à l'Iran comme un pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, ce qui est une habitude tout à fait particulière, parce que les classifications régionales reflètent bien entendu toujours des points de vue géopolitiques. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire ? Je suis en train d'essayer de dire que l'Iran, et ça je l'ai écrit depuis longtemps, n'est-ce pas, pardon, de faire cette remarque, mais l'Iran a deux faces. L'Iran peut regarder effectivement du côté de l'Occident, et c'est ce qu'elle a fait avec le Shah, etc., bon, et les élites de cette époque, mais l'Iran peut regarder aussi du côté de l'Asie. Et ce qu'il faut observer actuellement, c'est que tout ce qui se passe entre l'Iran et la Chine. Par exemple, il y a des accords de troc, n'est-ce pas, qui sont en train d'être mis en place, et donc on peut interpréter comme une façon de contourner les sanctions contre l'Iran, etc. Et vous voyez bien que si, alors évidemment là je suis dans la prospective, mais si effectivement il y a un rapprochement très sérieux entre l'Iran et la Chine sur fond d'intérêts pétroliers et autres, à ce moment-là, ça se projette immédiatement sur la Syrie. Et ça se projette avec les chiites, les alaouites qui dépendent évidemment beaucoup du soutien iranien, et ça va tout de suite jusqu'au Liban. C'est-à-dire que la Chine potentiellement peut avoir devenir un acteur important de la scène du Proche et du Moyen-Orient. Et si vous me permettez de rajouter encore un point sur ce chapitre qui me semble potentiellement très important, une des raisons pour lesquelles je me lamente qu'on n'arrive pas à progresser sur la résolution du problème israélo-palestinien, c'est que j'entrevois le jour où un pays comme la Chine deviendrait un acteur majeur, y compris sur cette question israélo-palestinienne. Or, la Chine, sur le plan, disons, culturel, historique, etc., ne se sent nullement concernée par la Shoah et par le type d'argument qui, évidemment, joue un rôle fondamental. Voilà. Donc, je pense qu'il y a là une piste insuffisamment explorée, mais pour quiconque regarde un tout petit peu plus loin que le bout de son nez, ça n'est pas négligeable.
Alors, je vais terminer par une question qui consiste à revenir sur ce que vous avez dit au début à propos de la Chine, c'est-à-dire qu'elle défend ses intérêts. Elle défend ses intérêts, elle a besoin de ressources énergétiques. Et par conséquent, est-ce que la France ne devrait intervenir, ne devrait agir en diplomatie, comme elle vient de le faire en Libye, en masquant ou en gommant elle aussi la défense de ses propres intérêts? Je veux dire par là que nous donnons toujours l'impression de défendre des intérêts moraux, les droits de l'homme, la conscience universelle, etc. C'est ce que nous affichons. Mais quand il s'agit de parler, par exemple, de pétrole en Libye, alors là, on a l'impression de froisser notre susceptibilité nationale. Est-ce que nous n'avons pas tort?
Alors effectivement, dans la tradition française, il y a toujours eu, et en cela d'ailleurs nous sommes en compétition avec les États-Unis, l'idée ou la prétention d'être le phare un petit peu de l'univers et de distribuer la bonne parole et de donner l'exemple. Cela dit, la France en revient souvent aussi à ses intérêts bien compris. Je pense par exemple au début de la présidence de Nicolas Sarkozy, il avait une position qui était assez idéologique sur la Russie. Et le pendule, évidemment, s'est rééquilibré assez rapidement. Donc, je ne m'en fais pas trop. Je pense que, quelles que soient les paroles que nous entendons actuellement ou que nous n'entendons pas, je ne serais pas surpris que la France défende ses intérêts en Libye, par exemple. Et d'ailleurs, ceci est parfaitement légitime. Empressons-nous de le dire. Et d'ailleurs, il y aura justement des jeux, parce qu'on peut être certain que les Américains et autres, tout le monde va revenir, évidemment, sur la scène libyenne. Je pensais que votre marque allait un peu plus loin géographiquement que sur la Libye, parce qu'on peut se poser des questions, par exemple, par rapport à l'Iran aussi.
Bien sûr. Hein,
puisque là, il faut bien voir que le président Sarkozy a effectué sur l'Iran une correction de trajectoire très significative par rapport à la ligne qui avait été suivie par son prédécesseur. Et ceci se raccroche à ma remarque antérieure sur le rôle potentiel de la Chine, etc. Alors, ce que je veux dire en réalité, c'est que quand on parle d'intérêt, il y a les intérêts évidents, si je veux dire, les intérêts économiques, pétroliers, etc. Tout ça, c'est pas très difficile de définir ce type d'intérêt. Quand il s'agit de voir quelle attitude prendre vis-à-vis d'un régime qui nous déplaît pour bien des raisons, il faut évidemment inscrire la réflexion dans une perspective historiquement beaucoup plus large, que ce soit en rétrospectif ou en prospectif. Et là, nous sommes dans la définition même des intérêts nationaux, est un exercice beaucoup plus complexe.
Thierry de Montbrial, merci pour cet entretien. Et donc, nous allons tâcher de nous retrouver le mois prochain.
Et nous aurons toujours beaucoup de choses à nous dire.
Absolument. Merci beaucoup.
Merci.